comment faire pour calmer le stress, résoudre le problème, bien sûr, mais aussi cette petite amygdale qui sonne l'alarme dans le corps. Comment faire pour la calmer? Ce qui calme l'amygdale, c'est l'ocytocine, une hormone qui nous permet de nous sentir rassurés, une hormone qui nous calme, une hormone sociale qui nous rend empathique envers autrui, une hormone qui nous permet de nous sentir aimés. C'est l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur. Donc, ça veut dire que concrètement, quand j'ai mon gamin qui hurle, quand j'ai mon gamin qui est furieux, qu'il ait 6 mois ou 14 ans, si je vois que mon enfant a un comportement tout à fait inadapté, qu'il fait des bêtises à n'en plus finir, la première chose que je fais, c'est un grand câlin. Évidemment, déjà, ça, c'est assez scandaleux. Personne ne veut donner un grand câlin à quelqu'un qui vient de faire une bêtise. Parce que nous, adultes, on réfléchit un peu à l'envers. Et alors, on se dit, je ne vais quand même pas récompenser une bêtise. Vous vous rendez compte ce qu'on dit? Si on y réfléchit, c'est dingue. C'est comme si on considérait que l'amour est une récompense. Mais l'amour, ce n'est pas une récompense. L'amour, c'est un carburant. Vous imaginez dire à votre voiture, « Bon, on est à Talence, tu m'emmènes à Bordeaux. Une fois qu'on sera à Bordeaux, si tu m'as conduit correctement, eh bien, je te mettrai de l'essence. » On ne fait pas ça, nous. On met de l'essence d'abord et ensuite, on espère bien qu'elle va nous conduire. Mais avec nos enfants, on les laisse partir à vide à l'école. Parce que, faut être honnête, hein, la plupart du temps, le matin, combien d'entre nous, en levant l'enfant, lui disent « Ah, bonjour mon chéri, enfin, si on jouait à quelque chose avant de se mettre à s'habiller ?» Non, en général, on laisse notre enfant dormir le maximum. Oh, faut qu'il dorme. On le réveille donc la dernière minute, et là on lui dit « Allez, tu te dépêches, tu t'habilles, tu prends ton petit déjeuner, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et on va être encore en retard pour partir à l'école !» Donc l'enfant est tout stressé, alors évidemment il essaye de ralentir le mouvement, mais nous on cherche à l'accélérer, c'est la bagarre. Donc l'enfant, il arrive à l'école à vide, il a un réservoir déjà niveau zéro. Il arrive peut-être à tenir toute la journée, mais je ne sais pas si vous avez des enfants dans le même genre d'école que moi, mais on est en France, donc il n'y a pas beaucoup d'occasions de remplir son réservoir à l'école. On traverse à peu près sans dommage en essayant de remplir son réservoir avec les copains, tout ça. Alors, si on est un garçon, surtout, il y a un bon truc pour remplir le réservoir avec les copains. C'est déconner. Si je déconne à l'école, les copains m'admirent. Et donc, je gagne des galons. Je peux remplir un peu mon réservoir. Bref. Je peux me faire punir aussi. Une punition, c'est génial. Parce que si on réussit à décrocher une punition de la part de l'enseignant, mais c'est pas seulement les galons, là, on est auréolé de... Et ouais, ça donne de l'honneur d'être puni aujourd'hui. Tout le monde vous admire, vous êtes un caïd, vous êtes un fort, un dur. Statistiquement, vous gagnez du prestige auprès des autres garçons et auprès des filles. Donc, plus on va vers l'adolescence, plus chaque punition permet de se sentir bien et de remplir le réservoir. Vous voyez comme on a peut-être intérêt à remplir bien le réservoir un peu avant pour qu'ils n'aient pas besoin de ce genre de truc. Bref, j'arrive plus ou moins mon réservoir rempli à la sortie de l'école. Et là, je retrouve la fin de ma journée. Malheureusement, j'aimerais bien remplir mon réservoir, mais là encore, maman, papa sont pas disponibles. D'abord, ils sont pas encore rentrés du boulot. Et puis, ils me demandent de faire mes devoirs. Et puis, on se dispute sur les devoirs. Et puis, ils me laissent même pas faire mon ordinateur, parce que j'aimerais bien au moins me calmer un petit peu. L'ordinateur, c'est chouette, ça me met sous onde alpha. Mais ils me laissent pas faire ça, et on se dispute, et ils ont jamais le temps de jouer avec moi. Ah, ce week-end, on jouera et tout. Et puis le week-end arrive et puis finalement, ils ont des amis, ils n'ont pas le temps de jouer avec moi. Et donc, je me retrouve avec un réservoir de plus en plus vide. Et quand on a un réservoir vide, ben, on va faire des conneries. Non pas pour avoir de l'attention, comme quelquefois certaines personnes disent « Ah oui, il cherche de l'attention », comme si c'était négatif d'ailleurs. C'est drôle ça. Jamais on dirait d'un enfant « Tu as faim et tu me dis que tu as faim, eh ben tu n'auras pas à manger ». On ne fait pas ce genre de truc. Et pourtant c'est la même chose. S'il montre qu'il a besoin d'attention, c'est qu'il en a vraiment besoin. Or, l'attention, l'attachement, c'est un besoin qui prime sur la nourriture. C'est le besoin juste derrière respirer. Les petits singes et les humains vont préférer se laisser mourir de faim s'ils ont le choix entre manger ou bien recevoir de la tendresse. L'attachement est primordial. Donc oui, si l'enfant cherche de l'attention, eh bien, c'est important de la lui donner. Mais l'enfant ne se dit pas « mes parents ne s'occupent pas assez de moi, il faut que je fasse quelque chose pour… » Non, il ressent juste un niveau de stress important. Parce que, encore une fois, le stress, c'est tout un cortège d'hormones à l'intérieur de mon corps. Un cortège d'hormones comme le cortisol, par exemple. Le cortisol qui va déclencher hyperactivité, défiance, argusie, c'est-à-dire que les enfants négocient. C'est pas qu'ils sont pénibles, c'est que leur cerveau se met à chercher des options, à chercher des solutions. Et donc, ils se mettent à négocier, parler, argumenter, n'importe quoi. Simplement parce qu'ils sont sous stress. Les émotions, c'est toutes sortes de neurotransmetteurs dans le cerveau, des messagers dans mon cerveau, des messagers chimiques entre les neurones. Les hormones, toute la chimie aussi dans mon corps, adrénaline, cortisol, et les émotions, c'est aussi un influx électrique. Parce que les neurones, il y a à la fois une transmission chimique et une transmission électrique. Il y a l'influx nerveux qui va sauter comme ça, de nœud en nœud, pour propager l'influx. Et donc, c'est important de mesurer qu'un enfant qui est sous stress, un enfant qui ne reçoit pas l'attachement dont il a besoin, un enfant dont le réservoir est trop vide, eh bien, il est plein d'hormones de stress, ça bouge beaucoup dans sa tête, il y a de l'électricité partout à l'intérieur de son cerveau, il cherche à s'en sortir. Et ce qu'il va faire, c'est pas qu'il va faire exprès des bêtises pour solliciter notre attention, c'est que tout simplement, son corps va chercher à faire des choses. Typiquement, le gamin va à table se balancer sur sa chaise. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour stimuler son oreille interne, parce que ça lui permet de se calmer un petit peu. Il va rester sur son ordinateur pendant des heures, ou devant la télé, parce qu'effectivement, ça le calme. Il va manger des bonbons parce que ça va nourrir son circuit de la récompense et donc il va se sentir un petit peu mieux. Oh, ça va s'aggraver après, mais un petit moment, ça va se sentir mieux. Il va boire des sodas parce que pareil, ça va lui apporter du sucre et donc il va avoir l'impression que ça va mieux. Il va chercher à tempérer, calmer son cerveau. Peut-être nous, parents, on pourrait prévenir et remplir le réservoir de notre enfant dès le matin. On se réveille, mieux vaut le réveiller un peu plus tôt pour avoir le temps de jouer, avoir le temps de prendre son temps, avoir le temps d'être ensemble. On peut faire un jeu de s'habiller au lieu de faire d'abord un jeu et puis ensuite on s'habille super vite. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas un jeu à s'habiller? Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire que l'atmosphère soit différente, simplement en arrêtant d'être en opposition dans les tâches à accomplir et puis des moments plaisir. Pourquoi on ne prendrait pas plaisir au quotidien toute notre vie? Plaisir à vivre ensemble. En fait, chaque moment où nous n'éprouvons pas du plaisir à vivre avec notre enfant, c'est un moment perdu. C'est un moment inutile. C'est vraiment important de se nourrir au quotidien. Parce qu'il n'y a pas que eux qui se nourrissent d'ocytocine, nous aussi. Et nous aussi, on en a drôlement besoin de l'ocytocine. Parce que qui ne supporte pas la frustration? Ça nous arrive, hein, nous aussi. Ah, tu vas pas m'énerver ! On se met à hurler sur nos gamins. Pourquoi ? Eh bien, parce que, pareil, hop, le petit stress se déclenche. L'amygdale, ben ouais, quelquefois, on croit que notre enfant, c'est un mammouth. On réagit comme si c'était un mammouth. Juste, il nous apporte un bulletin qui n'est pas exactement celui qu'on attendait, ou bien il ne veut pas mettre ses bottes, ou bien il ne ramène pas ce que je lui ai demandé de, ramener, il ne fait pas ce que j'attendais, il s'oppose, je suis donc en état de frustration, et là, paf, ça me déclenche, comme si c'était un mammouth. L'ennui, c'est que ça ne va pas l'aider beaucoup à se calmer. Lui, s'il a eu un comportement inapproprié, c'est probablement parce qu'il était sous stress. Alors, si moi aussi, je m'y mets avec mon stress, on va juste faire bjou, 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 monter de stress en stress, se faire peur les uns aux autres. Seulement, ça, c'est pas facile. Comment être le parent qu'on aurait voulu être ? Et donc, je viens à la question suivante, que j'ai mis de côté un petit peu. Comment être le parent qu'on voudrait être ? Comment faire en sorte que face aux émotions des parents, l'enfant puisse rester en contact avec lui-même ? Comment faire pour que nous n'ayons pas des explosions aussi importantes ? Alors, avant de voir comment faire, regardons d'où viennent ces explosions. C'est vrai. Pourquoi est-ce que nous considérons que notre enfant qui est minuscule, que nous aimons profondément, comment ça se fait que, par moment, notre cerveau l'interprète comme un ennemi, comme un mammouth qui nous courrait dessus et qu'il faut absolument soit attaquer, soit fuir. Va dans ta chambre, j'en peux plus. Eh bien, ce qui se passe, les scientifiques d'aujourd'hui ont pu l'identifier. Ils ont regardé ce qui se déroule dans le cerveau d'un enfant. D'un parent. Et donc, sous l'IRM fonctionnel, on met le cerveau du parent sous l'IRM fonctionnel et on lui passe des images d'enfants. Lorsque un parent voit une image de son enfant en train de pleurer, un petit film où il voit son enfant pleurer, immédiatement, tout son cerveau est baigné d'ocytocine. Et les zones du caretaking, c'est-à-dire de « je prends soin de », s'allument. Toutes ces zones s'allument dans son cerveau et donc nous sommes, en tant que parents, invités à aller prendre soin de l'enfant. Pas chez tous les parents. Seulement chez les parents qui ont reçu, enfant, l'attachement dont ils avaient besoin. Quand un parent, lorsqu'il était enfant, n'a pas reçu l'attachement dont il avait besoin, lorsque enfant, il était rejeté par ses parents. Lorsque ses parents n'écoutaient pas ses émotions, lorsque ses parents n'avaient pas le temps de jouer avec lui, de l'embrasser, de le câliner, lorsque les parents ne voulaient pas le prendre dans les bras, eh bien, dans son cerveau, l'amygdale, déjà, qui a eu trop peur, l'amygdale a sonné trop souvent. Donc, elle est hyper réactive. Donc, on voit la petite amygdale, elle est souvent plus grosse et elle réagit plus vite que celle de quelqu'un qui, enfant, a reçu le portage, la tendresse, l'accueil de ses émotions de la part de ses parents. Lorsque l'enfant n'a pas reçu l'attachement, les récepteurs d'ocytocine diminuent dans son cerveau. Il y a moins de récepteurs d'ocytocine. Lorsqu'un enfant a été blessé dans son enfance, maltraité, c'est inscrit jusque dans ses gènes. Avant, on pensait que le code génétique, il était inscrit pour toujours. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. La maltraitance va altérer les gènes, diminuer la taille des télomères. Les télomères, c'est ces bras des chromosomes. Ça va s'inscrire dans le patrimoine génétique pour 3 générations. Et donc, lorsque un parent qui n'a pas reçu l'attachement dont il avait besoin est face à son enfant qui pleure, ou même face à un enfant qui lui tend les bras et vient vers lui, eh bien, du fait de cette histoire personnelle, de l'hyper-réactivité de son amygdale, du manque de récepteurs d'ocytocine, il interprète la sollicitation de l'enfant, le pleur de l'enfant, l'émotion de l'enfant comme étant un danger. Et c'est à ce moment-là qu'on prend l'ennemi. En fait, ce qui s'allume dans le cerveau de ce parent-là, ça n'est pas la zone de « je prends soin de ». Il y a zéro ocytocine libérée dans son cerveau. Ce qui est libéré, c'est l'adrénaline, le cortisol, les hormones du stress. Et donc, c'est vraiment important de mesurer que quand un parent hyper réagit, crie, frappe son enfant, ça n'est pas un mauvais parent, ça n'est pas un méchant parent. C'est juste un parent qui a un cerveau sous stress. C'est un parent qui a vraiment besoin de prendre soin de son amygdale et de restaurer les capteurs à ocytocine, parce que ça se restaure. Et donc, c'est un parent qui a besoin de beaucoup de câlins et de contacts de la part de son partenaire ou de la part de ses amis pour pouvoir restaurer l'ocytocine. C'est un parent qui a besoin de pouvoir guérir son histoire pour pouvoir être de nouveau apte à regarder son enfant comme son enfant et non pas comme une source de danger. C'est un peu comme si, quand notre enfant réagit avec des pleurs, quelque part, ça nous rappelle quand nous, on avait cette souffrance, et en même temps, on est porté vers, et en même temps, c'est la panique parce que j'ai été rejetée dans mon enfance, donc si je m'approche, je vais encore être rejetée. C'est la peur du rejet qui nous fait crier sur nos enfants. Nous ne crions jamais sur nos enfants parce qu'ils ont fait une bêtise. Nous ne crions jamais sur nos enfants parce qu'ils se comportent mal. Nous crions sur nos enfants parce que nous ne savons pas gérer notre cerveau et parce que nous avons peur du rejet. Nous avons peur d'être encore une fois mis à l'écart, comme nous l'étions quand nous étions petits. Une expérience, des psychologues ont installé deux écrans vidéo et proposent à quelqu'un de jouer à la balle avec les deux ordinateurs. Concrètement, c'est un jeu tout simple. Je clique et ça envoie la balle à un ordinateur. L'ordinateur A envoie la balle à l'ordinateur B et l'ordinateur B m'envoie la balle. Et on joue comme ça tous les trois. Toc, 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 toc. Le gars, il est prévenu de ce qui va se passer. On lui dit que, à un moment donné, les ordinateurs vont se mettre à jouer ensemble. Il le sait. Avant, on lui a fait faire un test pour voir son niveau de confiance en lui. Il joue. Et puis quand les ordinateurs commencent à jouer tout seuls, eh bien, au bout de quelques minutes, il perd confiance en lui. Vous vous rendez compte? Au bout de quelques minutes, quand deux ordinateurs nous excluent, on se sent diminué, dévalorisé, on perd confiance en soi. Vous imaginez le nombre d'ordinateurs qui jouent sans nous? Le nombre d'humains qui ne veulent pas jouer avec nous. Le nombre de fois où notre maman n'a pas voulu jouer avec nous. Le nombre de fois où on s'est senti en désarroi.